Remercie notre frère pour ses paroles. C'est vrai que la prière est un élément indispensable de la vie du chrétien. Il y a des gens qui disent l'essentiel c'est de prier. Alors j'aime bien corriger en disant non, avant la prière il y a encore autre chose. C'est la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous prions, c'est nous qui parlons à Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Alors, pour que tout le monde soit d'accord et pour qu'il n'y ait pas de dispute, même si sur ce sujet, je ne pense pas qu'il y ait de dispute, eh bien, l'un ne va pas sans l'autre. Il est important d'écouter Dieu, il est essentiel d'écouter Dieu et ensuite de lui parler. Dans un vrai dialogue, il faut que les deux parlent. S'il n'y en a qu'un seul qui parle, bon, c'est moins grave si c'est que Dieu qui parle. Mais il est bon aussi que l'enfant de Dieu parle à son père. Maintenant, si c'est l'enfant qui parle tout le temps, ça, c'est un peu plus grave. C'est un peu plus dommage parce que le Père connaît plus les choses. Et quand c'est Dieu, c'est encore plus. Dieu connaît toutes choses. Dieu nous connaît. C'est lui qui nous a créés. Donc, il est important qu'il y ait les deux éléments. Comme j'ai dû parler plusieurs fois de la parole de Dieu, j'aimerais, et puis rien que cet après-midi, en parlant sur la prière, j'ouvrirai la parole de Dieu, comme elle vient d'être lue. Donc, nous allons parler cet après-midi de la prière. Et j'ai voulu que nous lisions donc ce texte qui vient d'être lu, de Luc, chapitre 11. C'est un texte très intéressant parce que tout commence par le modèle. C'est en voyant Jésus prier, c'est en remarquant que Jésus priait souvent. Là, il nous est dit, Jésus priait un jour dans un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé de prier, l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier ». Je ne vous apprendrai rien en disant que Jésus priait. Jésus priait beaucoup. Jésus priait souvent. On va certainement pouvoir dire Jésus priait tous les jours. Et même plus loin, Jésus devait être en communion permanente avec Dieu. Alors s'il priait de manière audible ou pas, il était toujours en communion avec Dieu. Et on pourrait dire si Jésus a eu besoin de prier autant, à combien plus forte raison, nous qui ne sommes pas Jésus, nous qui ne sommes pas, nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas le Fils de Dieu unique, le Fils unique de Dieu, à combien plus forte raison avons-nous besoin de prier? Un chrétien me disait un jour, après que peut-être j'avais prêché sur ce texte ou sur un autre texte, car il y a de nombreux textes qui parlent de la prière, et ce chrétien est venu me voir et m'a dit, mais Philippe, pourquoi est-ce que Jésus avait besoin de prier? Pour lui, Jésus étant le Fils de Dieu, il n'avait même pas besoin de prier. Je lui dis, mais écoute, pourquoi est-ce qu'un enfant a besoin de parler avec ses parents? Est-ce qu'on peut concevoir un instant un enfant qui ne parlerait jamais à ses parents? Quand un enfant arrivé à un certain âge ne parle pas, on s'inquiète. Bon, mais ça, c'est un autre problème. Il y a des enfants qui ne parlent pas pour des raisons particulières. Mais qu'un enfant de toute sa vie ne parle pas à ses parents, c'est inconcevable. Ça n'existe pas. Et si l'enfant a un besoin naturel et vital de parler avec ses parents, avec ceux qui l'ont créé, qui l'ont mis au monde, Jésus avait besoin aussi de parler avec son père. Il est venu sur terre pour accomplir une mission, et cette mission, il l'a accompli en communion étroite et permanente avec son Père. Alors Jésus, quand ses disciples l'ont vu et lui ont posé la question, « Seigneur, enseigne-nous à prier », Jésus a donné un modèle de prière. Cela ne veut pas dire que tous les jours nous devons prier cette prière et rien d'autre. Jésus a donné un modèle. Vous savez qu'un modèle, on ne le restitue pas, on ne le reproduit pas complètement, parfaitement, tout le temps et en toutes circonstances. Jésus n'a pas dit « En toutes circonstances, dites ces mots. » Mais il a donné un exemple. Et cet exemple est intéressant parce que Jésus dit, quand vous priez, et c'est le premier élément important de son enseignement sur la prière, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La première chose essentielle quand nous voulons apprendre ce que c'est que la prière, c'est d'abord de savoir à qui nous nous adressons quand nous prions. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un, vous faites attention à qui vous parlez. Et c'est selon la personne à qui vous vous adressez quand vous parlez que vous allez dire certaines choses. Mais à cette personne, vous ne direz pas certaines autres choses que vous réserverez pour d'autres personnes. C'est un peu comme quand vous écrivez. Si vous écrivez, enfin, je sais qu'on n'écrit plus beaucoup aujourd'hui, on a d'autres méthodes, on envoie des emails, remarquez, c'est comme écrire un email. Ou alors, on rétrécit les choses et on envoie des SMS, je crois qu'il y a même encore d'autres choses qui existent. Je ne suis pas très fort dans ces techniques, mais il y a que quelques jours que j'ai appris à envoyer un SMS. C'est pour vous dire que, vous voyez aussi, je ne suis pas tout jeune. Hein. Donc, j'ai appris ça d'un coup et c'est une révélation pour moi presque. On peut envoyer des petits mots, il ne faut pas qu'ils soient trop longs, parce que ce n'est pas évident de taper les mots. Et donc il y a différentes techniques aujourd'hui. Avant on écrivait, si vous recevez un mot, ce mot vous est adressé à vous personnellement. La personne qui a écrit ce mot savait à qui elle envoyait le mot, et on n'envoie pas le même message à tout le monde. Quand on s'adresse à Dieu, on doit d'abord donc savoir que c'est à Dieu qu'on s'adresse. Et Jésus attachait beaucoup d'importance à cela. L'évangéliste Luc, l'auteur de l'évangile de Luc, nous représente souvent Jésus priant. Il le fait plus souvent que les autres. J'ai remarqué que dans l'évangile de Luc, il y a pas mal d'allusions à Jésus qui priait. Par exemple, nous voyons dans Luc 3, 21, que Jésus, lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, alors qu'il était dans l'eau, l'évangile dit, Jésus priait. En sortant de l'eau, Jésus priait. C'est alors que l'Esprit Saint est descendu sur lui comme une colombe et l'a revêtu. Au chapitre suivant, Luc 4, 42, je cite simplement les textes, il nous est dit que Jésus se retirait la nuit pour aller prier dans un lieu désert. Et cela, nous avons des indications comme quoi Jésus le faisait assez régulièrement. Il se retirait dans un endroit tranquille pour prier, pour simplement parler avec son Père. Il ne nous est pas dit de quoi il parlait, pourquoi il priait, mais il se retirait pour être en communion avec son Père. Dans Luc chapitre 6, verset 12, je remarque que Jésus a passé un jour toute une nuit en prière. J'ai entendu des gens qui disaient « Jésus passait toutes ses nuits en prière ». Bon, ça c'est une exagération. Il n'est pas dit dans l'Évangile que Jésus passait toutes ses nuits en prière. Mais ce jour-là, plutôt cette nuit-là, Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Et l'évangéliste Luc dit que lorsque le jour s'est levé, après avoir prié toute la nuit, Jésus a choisi ses 12 apôtres parmi tous les disciples qui le suivaient. On peut donc en déduire que cette nuit-là, Jésus l'a passée et a tenu à la passer tout entière dans la prière parce qu'il avait le lendemain une mission extrêmement importante à accomplir, ou plutôt une décision extrêmement importante à prendre. Il allait choisir 12 hommes qu'il allait former. Il est dit dans un évangile, il a choisi 12 hommes qu'il a nommés apôtres pour les avoir toujours avec lui. C'était un choix qui n'était pas évident. Et Jésus a eu besoin de passer toute la nuit avec son Père. À mon avis, je ne sais pas s'ils ont passé tous les disciples en revue, mais il y en avait peut-être 100 ou 200 à l'époque. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus et qui apprenaient à son contact, donc qui étaient des disciples. Peut-être qu'ils n'ont pas passé tout le monde en revue. Peut-être qu'ils avaient une liste là, un peu élargie. Et puis, sur cette liste peut-être de 30 personnes susceptibles d'être apôtres, ils en ont choisi 12. Et cela a nécessité une nuit entière de prière. Alors, nous voyons Jésus prier également au chapitre 9, lors de cette expérience particulière que l'on appelle la transfiguration, où Jésus a été comme métamorphosé, a pris une apparence extraordinaire, glorieuse, en compagnie de Moïse et du prophète Élie. Et puis nous voyons également donc notre texte, Luc chapitre 11, où il nous est dit « Jésus priait un jour en un certain lieu, et lorsqu'il a eu terminé de prier, donc ses disciples ont dit « Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. » Donc Jésus a dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » S'adresser d'abord à Dieu, placer Dieu comme la priorité de tout dans nos prières. Vous savez, quelquefois, on peut avoir tendance, surtout dans les moments de crise, à oublier de glorifier Dieu, de dire d'abord que son nom soit sanctifié, c'est que son règne vienne, c'est de dire « Seigneur, c'est toi qui comptes d'abord. » Quelles que soient les difficultés par lesquelles je passe, quelles que soient quoi que je vive actuellement, quelles que soient les épreuves que je peux subir, c'est d'abord toi qui comptes. Dieu en premier dans la prière. Parfois on a tendance à dire, c'est avant de se mettre en prière, ou presque en commençant, « Seigneur, je t'en prie, fais quelque chose pour moi, parce que je suis dans la difficulté, ou je suis dans l'épreuve. » Mais Jésus dit, « Quand vous priez, d'abord, considérez que vous êtes là en présence de Dieu. » C'est cela qui compte d'abord. Savoir à qui on s'adresse. Vous savez, quand Jésus était sur terre, il y avait des chefs religieux, dont il est souvent parlé dans l'Évangile, parce que notamment ils ont été souvent en conflit avec Jésus, et ces chefs religieux, enfin certains d'entre eux, puisque Jésus les a un petit peu dénoncés, en disant « Lorsque vous priez, ne sonnez pas de la trompette devant vous, ne vous mettez pas comme en deuil pour attirer l'attention sur vous, quand vous jeûnez, ne vous couvrez pas avec des cendres et tout, comme si vous étiez en deuil, parce que ce qui compte, ce n'est pas que les gens vous voient. » Quand vous priez, l'important, ce n'est pas que les gens vous voient prier. Il y a des gens qui... J'ai entendu parfois des gens dire « Oh, vous savez, moi, je prie beaucoup. » Bon, c'est très bien. C'est leur affaire, je dirais. C'est bien, s'ils prient beaucoup, je suppose qu'ils ne travaillent pas beaucoup, parce que c'est difficile de travailler en priant ou de prier en travaillant. Il faut être concentré aussi sur son travail. Mais c'est bien s'ils prient beaucoup. Jésus a dit « Ce n'est pas tellement le nombre de paroles que nous prononçons. » Jésus n'a jamais dit « passer de nombreuses heures en prière ». Lorsque l'apôtre Paul dit dans le deuxième texte qui a été lu tout à l'heure « prier sans cesse », ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter toute activité. Parce que sinon, prier sans cesse, ça veut dire prier sans vous arrêter. Donc ça voudrait dire « faut pas dormir, faut pas manger, faut pas travailler, faut rien faire d'autre ». Et bien sûr, c'est une attitude plus que le concret de la prière. Jésus n'a pas dit « il faut prier toute la journée ». Parce que sinon, nous ne pourrions rien faire d'autre. C'est une attitude qui est enseignée par l'apôtre Paul et par Jésus. Les pharisiens, les chefs religieux de l'époque de Jésus, aimaient se montrer en public, priant ou jeûnant. Ils aimaient que tout le monde les voie. Et Jésus leur a dit, Jésus a dit d'eux, leur récompense, ou ce qui les attend parce qu'ils prient beaucoup. Ils l'ont déjà sur terre puisque tout le monde les voit. Et tout le monde leur fait sans doute des compliments. « Oh, regardez cet homme, quel homme de prière, il est toujours en train de prier, il est toujours en train de jeûner. » L'Évangile laisse entendre que les pharisiens jeûnaient deux fois par semaine. Alors, est-ce que c'était deux jours entiers? Deux fois par semaine. Jésus n'a jamais dit qu'il fallait jeûner autant. Il n'a pas d'ailleurs donné d'enseignement particulier sur le sujet. Mais par contre, il a dit quelque chose. Il a dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, c'est un endroit particulièrement privé, à l'écart du public, et ferme ta porte. Il n'y a pas plus privé que cela. Et prie ton Père qui voit dans le secret de ta chambre. Personne n'a besoin de savoir que tu pries. Par contre, toi, tu as besoin de savoir avec qui tu es. Quand nous prions, premier enseignement de Jésus, nous devons savoir à qui nous nous adressons. L'essentiel, c'est d'abord de savoir que nous sommes en présence de Dieu, notre Père. C'est lui que nous prions. L'important, ce n'est pas que les autres sachent que nous prions beaucoup, ou moins, ou plus que les autres. L'important, c'est que notre Père nous voit et que nous soyons conscients, quand nous prions, que nous nous adressons à Dieu. Nous ne devons pas être obsédés par ce que nous voulons lui demander. Nous devons être obsédés par sa présence. Parce que si nous sommes parfaitement conscients qu'il est là, présent avec nous, alors Jésus ne dit pas que nous devons absolument prier toujours dans notre chambre. C'est une image qu'il donne pour que nous comprenions que quand nous prions, nous devons essayer de le faire dans un endroit tranquille, comme Jésus lui-même le faisait, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Maintenant, si nous voulons prier alors que nous sommes dans le métro aux heures de pointe, nous pouvons le faire. On n'est pas obligé de parler à voix haute. Vous imaginez si dans le métro, alors que c'est l'heure de pointe, nous disions « Seigneur, je te bénis pour cette journée, je te demande de nous garder pendant 7 jours. Les gens vous regarderaient et disent, qui c'est celui-là? Alors, nous ne sommes pas obligés de faire cela. Nous pouvons prier intérieurement. Nous pouvons prier quand nous conduisons la voiture. Alors, bien sûr, on ne ferme pas les yeux dans ce cas-là. Jésus n'a pas dit que quand on prie, on doit fermer les yeux non plus. On peut prier quand on conduit. Ça m'arrive souvent de prier quand je conduis et je vous certifie que je ne ferme pas les yeux. On n'a pas encore les voitures automatiques qu'on nous promet pour je ne sais dans combien de temps et qui conduiront toutes seules. Alors là, peut-être qu'on pourra prier en fermant les yeux. On ne sera même plus au volant, il n'y aura plus de volant, paraît-il. Bon, enfin, on verra cela plus tard. Être conscient d'abord que nous sommes dans la présence de Jésus. Quand nous prions à l'Église, cela est toujours aussi valable. Quand nous prions au milieu des frères et des sœurs en Christ, nous devons être conscients d'une chose, même si les autres nous entendent. Nous ne sommes pas là pour faire un concours de la plus belle prière. Parce qu'après tout, la plus belle prière, ce n'est pas celle qui utilise les plus belles phrases. Vous avez peut-être remarqué comme moi, dans certaines églises, il m'est arrivé, dans une des nombreuses églises qu'il m'a été donné de rendre visite depuis que je prêche l'Évangile, j'ai remarqué que parfois il y a des gens qui font des prières qui sont de merveilleux poèmes. Mais Jésus n'a jamais dit qu'on devait faire des prières qui soient de véritables poèmes. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Si la prière est faite de tout son cœur, c'est très bien. Mais nous ne sommes pas là pour impressionner les autres. J'ai entendu souvent des gens me dire, mais tu sais, je ne peux pas prier. Je dis, pourquoi? Parce que lorsque j'entends les autres prier, je me dis, j'arriverai jamais à prier comme cela. Mais il n'y a pas de concours. La prière la plus vraie, la plus belle, c'est celle que Dieu va entendre et exaucer. Et donc, c'est celle qui sort du cœur, d'un cœur purifié, d'un cœur qui est dans le corps d'un homme ou d'une femme juste, parce que justifié par Dieu. Alors, le deuxième point, c'est dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, verset 16, qu'on le trouve. Deuxième point important d'une prière que Jésus va pouvoir exaucer, c'est ce que l'apôtre Jacques appelle la ferveur. Acte 5, 16, il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Et une autre traduction française dit « La prière du juste, faite avec ferveur, a une grande puissance. » Agissante, ferveur. Dans le mot « agissant », dans le texte original de la parole de Dieu, le texte grec, il y a le mot « énergie ». Une prière agissante, c'est une prière énergique. Une prière agissante, c'est une prière fervente. Vous savez ce que c'est que la ferveur. On parle des fois de ferveur dans une manifestation, dans un événement important, où il y avait beaucoup de ferveur. On parle de ferveur quand dans un stade, il y a une foule immense et que tout le monde est convaincu que son équipe va gagner. Alors, il y a des chants, il y a des cris, ça dépend des pays. Chacun a ses coutumes. Il y a beaucoup de pays en Europe où on chante, enfin les supporters, comme on dit, chantent. Il y a une véritable ferveur. Et alors, comment traduire cela dans une prière? Je crois qu'une prière faite avec ferveur, c'est une prière faite par quelqu'un qui y croit. Quand les supporters d'une équipe de football ou de rugby, ici en Europe, ce sont ces sports que l'on voit le plus, chantent, encouragent leur équipe par leur chant, par leur cri, par tout ce qu'ils font, c'est parce qu'ils y croient. Quand on est convaincu que son équipe va perdre, on ne chante pas. À la limite, on ne vient même pas voir la compétition, le match. Mais quand on y croit vraiment, alors il y a la ferveur qui s'exprime. Et c'est comme cela dans la prière. La prière faite avec ferveur, c'est celle qui est faite par un homme ou une femme qui croit, premièrement, qu'il est en présence de Dieu et que Dieu l'entend et que Dieu veut exaucer la prière. Alors cette prière-là, elle est faite avec ferveur. Elle n'est pas faite du bout des lèvres. Elle est faite avec tout son cœur, toute son énergie. C'est pour cela qu'on peut dire, c'est une prière énergique. Je prends un ou deux exemples rapidement. La prière d'Abraham, dans Genèse chapitre 18, en faveur de Sodome et Gomorre. On aurait pu croire au départ que c'était une cause perdue. Mais Abraham croyait que Dieu pouvait sauver quelqu'un dans cette ville. Alors bien sûr, il n'était pas sans ignorer que son neveu Lot y habitait. Il savait, lui, mieux que personne où en était Lot dans sa foi. On ne sait pas s'il y avait des contacts entre les deux, mais puisqu'il a prié pour Lot, c'est qu'il avait certainement des nouvelles. Et Abraham a prié, vous savez comment il a prié, en demandant à Dieu de sauver un certain nombre de justes. Puis à chaque fois, il disait, « Seigneur, permets-moi encore d'insister. » Et il enlevait 5 justes. Il disait, 25, 20, 15, 10. Et il a prié comme cela avec ferveur, parce qu'il était convaincu que Dieu pouvait sauver, ne serait-ce que son neveu Lot. Mais peut-être que Abraham croyait que Lot, que sa femme, que ses filles, que ceux qu'on appelle les gendres, si on ne sait pas si c'était déjà les maris de ses filles ou leurs fiancés. Et puis il se disait peut-être, mais peut-être que Lot a réussi par son témoignage à en gagner quelques-uns. Alors il a essayé de prier, il a prié pour ces gens-là avec beaucoup de ferveur. Et vous savez, le résultat qui en est sorti, c'est que quand même il y a eu 3 personnes, Lot et ses 2 filles seulement, qui s'en sont sortis vivants. Moïse, deuxième exemple, sur ce point, qui a prié pour son peuple alors que Dieu voulait le détruire parce qu'il s'était rebellé, parce qu'il avait adoré une idole qu'ils avaient fabriquée, le veau d'or. Moïse a intercédé avec ferveur de tout son cœur pour que Dieu sauve le peuple. Et vous savez que Moïse a réussi à convaincre Dieu d'épargner le peuple pour le moment, puisque vous le savez, toute la génération qui s'était rebellée, toute leur famille, n'ont pas vu la terre promise, mais ils n'ont pas été exterminés. Le troisième point, après la personne de celui à qui on s'adresse et la ferveur, c'est l'intensité. C'est assez proche de la ferveur. Dans Actes chapitre 12, verset 5, il nous est dit que lorsque l'apôtre Pierre a été arrêté après l'exécution de l'apôtre Jacques, il nous est dit que Hérode, le roi Hérode, avait décidé de continuer à maltraiter l'Église et qu'il avait fait arrêter Pierre et que tout le monde s'attendait à ce que Pierre subisse le même sort que Jacques. Puisque Jacques avait été exécuté, Pierre étant aussi un apôtre, et pas n'importe lequel, le porte-parole sans doute de l'Église, alors tout le monde s'attendait à ce que Pierre meure et soit exécuté lui aussi. Pierre était dans sa prison. Et que faisait-il ? Il savait que le lendemain, il allait comparaître. Pendant la nuit, il dormait paisiblement. Ce n'est pas facile de dormir paisiblement la veille du jour où vous attendez à être exécuté. Ça montre une certaine sérénité. Ça montre une certaine foi. Ça montre une certaine confiance. Mais apparemment, c'est possible, puisque Pierre l'a vécu. Et vous savez que Pierre, au départ, n'était pas aussi serein que cela. Dans les derniers temps où Jésus exerçait son ministère sur terre. Mais il y a un détail qui est intéressant ici, c'est qu'il nous est dit « Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » L'Église était comme tendue vers un but. Je dis tendue parce que dans le texte original, le mot « ne cessait de prier », c'est le mot qui exprime la tension. Vous savez, la tension dans laquelle on se trouve lorsqu'on est concentré sur un but, lorsqu'on est en train de faire quelque chose d'important, quelque chose qui sera peut-être décisif. Alors on est au maximum de la concentration, au maximum de la détermination, et c'est ce mot-là qui est exprimé ici dans ce texte. Pierre était en prison, tout le monde pensait, humainement parlant, qu'il n'avait plus aucune chance de s'en sortir le lendemain, puisque c'était l'ambiance du moment. Hérode voulait faire plaisir aux chefs religieux, et donc il avait fait exécuter Jacques, il allait probablement, vraisemblablement, faire exécuter Pierre aussi, et peut-être d'autres après. Mais l'Église ne s'est pas démobilisée, l'Église ne s'est pas découragée. L'Église a continué à prier, et la Bible nous dit, elle a prié dans une attitude de concentration maximale. Nous n'avons pas le détail de ce qu'ils ont demandé, Mais nous savons dans quelle attitude ils se sont mis. Ils ont prié, et la traduction dit « ils ne cessaient de prier », c'est-à-dire qu'ils étaient dans une concentration majeure. C'était le sujet essentiel de leur temps, de leur moment, de ces journées-là. Et le résultat, ça a été, encore une fois, que la bénédiction, la réponse à la prière est venue par la libération miraculeuse de Pierre. Pourquoi cela ? Parce que Dieu est seul à décider. Ce n'est pas Hérode qui décide. Si Hérode avait décidé, Pierre serait mort, certainement le lendemain, de la même manière que Jacques. Mais Dieu avait décidé d'intervenir. Alors, Dieu est intervenu et Pierre est reparti pour quelques années, je crois même une bonne vingtaine d'années de plus au service de Dieu. Puis un jour est venu où Pierre est mort, exécuté probablement selon la tradition qui est assez sérieuse. Mais quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Quand ce n'est pas l'heure, ce n'est pas l'heure. C'était l'heure pour Jacques, ce n'était pas l'heure pour Pierre dans le plan de Dieu. Le dernier point, je termine avec cela, c'est ce que nous avons lu dans l'histoire de l'ami qui vient à minuit frapper chez son voisin, chez son ami, pour lui demander les pains. Vous savez, il a reçu la visite d'un ami, une visite qui n'était pas prévue. Vous savez, une visite qui n'est pas prévue à 5 heures l'après-midi, ça va encore. Mais une visite qui n'est pas prévue à minuit, ça dérange plus. J'ai connu cela une fois. C'était pas exactement la même chose, mais c'était aussi à minuit. J'avais un ami chrétien qui habitait à 3 km de chez moi. Nous étions jeunes à l'époque et notre premier enfant, qui a aujourd'hui 35 ans, on n'en avait que un à l'époque, un an. Et il dormait paisiblement tout près de nous dans le lit et, parce qu'il avait des petits problèmes de santé à l'époque. Et vous savez, à minuit, à l'époque, quand on a un petit, à minuit, on est souvent fatigué, surtout quand il est malade, on dort déjà bien. Et c'est ce qui se passait. Nous dormions profondément et nous avions à l'époque une très mauvaise idée, c'est d'avoir le téléphone sur la table de chevet. Et alors à minuit, tout d'un coup, le téléphone sonne. Alors bien sûr, on sursaute dans le lit, parce que c'est la première partie de la nuit, le premier sommeil qui est souvent le plus profond. Ma femme a décroché, parce que le réveil était de son côté à elle. Ne me demandez pas pourquoi il était de son côté à elle. De toute façon, on l'entend autant d'un côté que de l'autre. Et c'était un ami chrétien donc, qui habitait à 3 km de chez nous et à qui j'avais dit un jour, comme il n'avait pas de voiture et nous en avions une, « Si un jour tu as un problème, n'hésite pas à m'appeler. Quand tu veux. » J'avais dit « Quand tu veux. Jour et nuit. » Je ne sais pas pourquoi j'avais dit cela. En tout cas, je l'avais dit. C'était la première fois de ma vie que je l'ai dit et je ne l'ai plus jamais redit. Je n'ai pas dit « Jour et nuit. » Si, avec les amis proches, on le dit ça des fois. S'il y a un problème, à ses enfants, aux enfants on le dit, aux parents on le dit cela. Et alors donc il m'avait pris au mot, et à minuit il avait un problème, je lui dis « qu'est-ce qui t'arrive ?» Il m'a dit « je suis à la gare en bas, à 3 km de chez moi, et il n'y a plus de bus. » Bien sûr à minuit il n'y a pas souvent des bus, enfin dans les grandes villes peut-être, mais pas dans les petites. Et comme je savais que sa femme était enceinte et 5e, 6e, 7e mois, quand il m'a dit cela, « Est-ce que tu peux venir nous chercher ?» J'ai dit, « Mais bien sûr !» J'ai fait celui qui était très heureux. Bon, je n'étais pas très heureux, il faut être honnête. Mais je lui avais dit, il fallait que je maintienne ma parole. Alors je me suis levé, je me suis habillé, je suis allé le chercher. Il s'est excusé du dérangement. J'ai dit, « Mais non, c'est rien, c'est rien !» Je n'ai rien dit d'autre. Ça s'est reproduit une autre fois, mais à 9h du soir. C'était moins grave. Eh bien, vous voyez cet homme, Jésus dit, ce n'est pas parce que c'est son ami qu'il vient, c'est parce qu'il insiste. Ce n'est pas parce que nous sommes les enfants de Dieu, même si ça joue un grand rôle, que nous devons prier avec importunité, c'est-à-dire en insistant, c'est-à-dire sans pudeur, sans scrupule. Dieu nous exhorte à prier sans scrupule, parce qu'il est notre Père, non, parce qu'il veut nous exaucer. Bien sûr, parce qu'il est notre Père. Mais il insiste sur ce côté-là, priez en insistant, priez sans scrupule. N'ayez pas de scrupule à insister. Si vous êtes des enfants de Dieu, si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes justes aux yeux de Dieu parce que justifiés par lui, ne faisons pas de scrupule, prions Dieu, parlons-lui, insistons. Vous savez comment les enfants font quand ils veulent quelque chose auprès des parents. Ils insistent, ils n'ont pas de scrupule. Alors, absolument aucun. Alors, rappelons-nous ceci, savoir quand nous prions qui, à qui nous nous adressons, prier avec ferveur, prier avec intensité et prier en insistant. C'est ce que Jésus a donné comme enseignement. Que son nom soit béni.